Vous écoutez RTL.
Elisabeth Martichoux, votre invitée ce matin, Nicolas Revel, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Bonjour Nicolas Revel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Vous traitez de sujets auxquels les Français sont très sensibles. D'abord, Nicolas Revel, est-ce qu'on dépense un pognon de dingue, selon l'expression désormais consacrée, un pognon de dingue pour la santé des Français, pour peu d'efficacité ?
Alors, on dépense à peu près 200 milliards d'euros chaque année, en tout cas la sécurité sociale, ce que nous remboursons, ça nous situe dans une moyenne haute, avec en gros nos voisins européens. Et je crois que nous avons un système qui est globalement efficace, même si on en parlera, je pense qu'il a encore des marges d'efficacité devant lui.
Les hôpitaux sont à bout, les déserts médicaux se multiplient à la campagne, à la ville, on va en parler en effet. Ça reste un système performant, 200 milliards pour ça ?
Quand on regarde l'efficacité, quand on compare notre système de soins par rapport à tous les pays de l'OCDE, les pays du monde, et qu'on regarde la performance des soins prodigués en France, c'est aujourd'hui encore un des systèmes les plus performants du monde. Il y a un indicateur que les Français connaissent peu, c'est leur espérance de vie. Non pas à la naissance, parce qu'elle est à peu près équivalente, on est le 5e ou 6e pays du monde, ce qui est déjà pas si mal, mais l'espérance de vie des Français quand ils ont atteint l'âge de 65 ans, ce qu'il leur reste à vivre à partir de 65 ans, nous sommes le 2e pays au monde. Et ça parle...
Derrière qui, par curiosité ?
Le Japon pour les femmes et les Suisses pour les hommes. Et ça évoque la qualité d'un système de soins qui sait bien prendre en charge aujourd'hui le vieillissement de la population, qui est un vrai phénomène, et les pathologies chroniques qui se développent.
Et ce vieillissement, c'est ce qui fait que 200 milliards par an, mais de plus en plus d'argent chaque année. Combien, par exemple, l'année prochaine, à peu près ?
Nos dépenses, sécurité sociale, ce qu'on prend en charge, ça progresse de 2% par an. Ça fait à peu près 4 milliards d'euros supplémentaires, ce qui est du coup un investissement.
À cause du vieillissement ? Enfin, parce qu'on vit de plus en plus...
Il y a des facteurs objectifs. Le vieillissement en est un. On a des pathologies chroniques qui se développent en France comme partout ailleurs. Le diabète, le cancer, les maladies d'origine psychiatrique ou santé mentale. Tout ça existe, voilà. Et ce que nous cherchons à faire chaque année, c'est de faire en sorte, par les fameuses économies dont vous parliez tout à l'heure dans l'annonce de notre interview, de faire en sorte que notre système de santé il progresse d'à peu près de 4 milliards de plus, ce qui n'est pas rien, ce qui est d'ailleurs un des postes de dépenses publiques et sociales qui augmente le plus chaque année sur longue durée. Mais c'est vrai que si nous avons besoin de faire des économies, c'est parce que notre système de santé ne pourrait pas augmenter de 4% ou de 8 milliards par an. Or, c'est un peu sa pente naturelle. Ouais. Et donc, pour ramener cette progression naturelle tendancielle de 4%, 8 milliards, à ce qu'on sait équilibré par l'évolution de nos cotisations sociales, on est amené à aller faire des économies. Et chaque année, l'assurance maladie fait des propositions en veillant à ce que les propositions qu'on fait ne portent pas atteinte précisément aux patients, aux assurés.
Alors, le voir. Allons-y. Les économies. Donc, sur le dos de qui je demandais tout à l'heure, il y a des recettes connues qui vont effectivement être, je pense, qui vont encore prospérer, comme plus de médicaments génériques, encore plus. Des déremboursements de médicaments ou pas ?
Précisément pas. Les déremboursements, quand ils interviennent, c'est parce qu'à un moment donné, la haute autorité de santé, qui est dans ce pays l'autorité scientifique chargée d'évaluer l'efficacité thérapeutique, nous dit qu'un médicament n'a plus lieu d'être remboursé. Donc ce n'est pas une décision financière comptable, c'est une décision d'évaluation médicale, ça intervient quand même très rarement. Ce que nous proposons dans nos propositions dites d'économique, mais qui ne font que de freiner une progression de la dépense, c'est justement d'aller vers ce qui est cette notion de juste soin, au juste prix, au bon endroit. Et avec ça, on a plein de leviers d'action. Vous avez parlé par exemple du générique. En France, objectivement, aujourd'hui, la France a une part du générique qui est très inférieure.
Qui reste encore en retard par rapport aux autres. Donc ça, vous allez accélérer ça. Ouais. Il y a des sujets qui sont des marronniers, Nicolas Revel, et qui sont des sources d'économie. Parce qu'aussi, il y a des abus ou des fraudes. Par exemple, les transports médicaux. Ça fait des années, on en parle avec les auditeurs d'RTL régulièrement, les ambulances, les taxis, il y a des abus toujours ? Et c'est un poste sur lequel vous voulez faire des économies.
On veut faire des économies parce que c'est un poste qui évolue très vite. Il évolue à 5 à 6% par an, ce qui est beaucoup. Bien sûr, il faut pouvoir transporter les malades.
Globalement, il coûte combien ?
Il coûte 4 milliards et demi.
D'accord. Bon.
Mais il faut évidemment transporter les malades, et de plus en plus avec un certain nombre de phénomènes liés au virage ambulatoire. Mais on voit bien aussi qu'on a des économies considérables à faire sur les transports par des choses simples. On a par exemple des transports qui se font aujourd'hui en ambulance et qui devraient pouvoir se faire sur des modes de transport moins coûteux, taxi, VSL. On voit qu'on a des transports sur des patients qui viennent chaque jour pour une chimiothérapie ou plutôt une radiothérapie, une dialyse. Et on a des systèmes de transport partagé qui permettraient de faire des économies rapidement.
Vous voulez dire du covoiturage ?
Oui, du covoiturage dans des transports sanitaires.
Mais ça fait des années qu'on en parle, encore une fois. Ça fait 10 ans qu'on évoque ça avec les auditeurs et qu'ils nous appellent en disant eh oui, effectivement. Mais bon, quelles sont les opérations concrètes que vous allez mener pour essayer de rationaliser ça ?
Alors, on est en train en ce moment même de passer des contrats avec les établissements de santé qui sont à l'origine des 2/3 des transports sanitaires pour qu'eux organisent mieux leurs commandes de transport. On est en train de travailler avec des caisses primaires pour faire que ceux des malades qui peuvent se transporter seuls avec quelqu'un de leur famille puissent être pris en charge et remboursés très rapidement sans passer par un transport sanitaire, taxi, ambulance ou VSL.
Direct.
Mmh. Oui, et donc il y a beaucoup de pistes que nous sommes en train de déployer.
La télémédecine, c'en est une ? Parce que la télémédecine, la téléconsultation, ça consiste effectivement à avoir une consultation par écran interposé, à éviter qu'on ait à bouger et à aller chez le médecin par définition.
Alors absolument, et nous avons, il y a juste 8 jours, conclu un accord avec les syndicats de médecins pour faire que la télémédecine, dont on parle depuis très longtemps, précisément, entre en vigueur à la rentrée, le 15 septembre, la Sécu, l'assurance maladie, remboursera des téléconsultations, c'est-à-dire des consultations faites à distance, avec un système vidéo,
mais
avec
des médecins. Mais il faut que les malades soient équipés, alors.
Ils peuvent l'être, il faut qu'ils soient équipés, mais sans qu'il y ait besoin d'avoir des équipements très lourds. Ils pourront d'ailleurs le faire avec un simple smartphone, à partir du moment où, effectivement, les données transmises...
Consultation sur smartphone, pour l'examen physique, c'est compliqué, non ?
Oui, et il y aura le smartphone comme solution simple. Il y aura aussi, est-ce que ça se diffuse, des cabines de télémédecine dont les communes sont en train de s'équiper. On pourra en trouver, parce que nous y travaillons avec les pharmaciens.
Il y a des communes qui s'équipent de cabines pour permettre
à des patients
pour leurs malades administrés
qui ont une distance à parcourir pour aller voir un médecin qui peut être à 10 km ou beaucoup plus loin. Et donc, nous aurons effectivement des solutions diverses pour permettre à cette télémédecine de se déployer à partir de la rentrée.
Donc, vous donnez concrètement des aides. L'assurance maladie va aider financièrement les communes à s'équiper et les médecins aussi à s'équiper.
Et les médecins auront aussi une aide que nous avons inscrite dans cet accord conventionnel avec eux.
Vous avez mis récemment dans un rapport le doigt sur des inégalités de traitement, notamment en ce qui concerne les opérations pour le cancer du sein, par exemple. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.
Ce que nous avons fait apparaître dans un rapport que nous rendons public aujourd'hui sur le cancer du sein, c'est que sur cette opération qui concerne à peu près chaque année 50 000 patientes, on voit qu'il y a aujourd'hui 570 services où on est opéré du cancer du sein en France. 570, c'est quand même beaucoup. Et on voit qu'à peu près un tiers de ces services de chirurgie opèrent moins de 30 personnes par an. Et 30, c'est le seuil d'autorisation qui existe en France.
Vous voulez dire qu'il y a des services qui opèrent alors qu'ils n'ont pas l'autorisation ?
Non, ils peuvent l'avoir ou ne pas l'avoir. Ils
sont
le plus souvent, ils sont au-dessus du seuil autorisé.
Ils n'ont pas le droit.
Ils peuvent avoir cette autorisation et juste avoir une activité qui a baissé. On est autour de nous à des seuils qui sont à 100 ou 150. Et quand on regarde ce qu'est le risque, ce que deviennent ces patientes un an, 5 ans plus tard, on voit que quand on est pris en charge dans des services où on est en dessous de ce seuil de 30, on a un sur-risque de mortalité qu'on estime au bout de 5 ans à 4.
Moins un établissement pratique cette opération, moins on a de chances de survivre.
Ce qu'on observe, c'est que 5 ans plus tard, le sur-risque de mortalité est évalué à 82%.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous, voyant cela, vous allez ordonner des fermetures de services, parce que l'idée, c'est donc qu'il y en ait le plus possible au même endroit, pour avoir une sécurité.
Ce que nous pensons, c'est qu'il faut faire en sorte qu'en effet, les seuils d'activité, les seuils d'autorisation soient relevés. On va le faire.
À combien ?
Écoutez, autour de nous,
c'est 30 aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est 30. En Angleterre, c'est 100. En Allemagne, en Italie, en Espagne, c'est 150. Je pense que la cible raisonnable serait 150, parce que là, on voit qu'on a un gain de qualité. Mais il faut le faire progressivement. Il faut faire en sorte que, notamment dans des groupements territoriaux hospitaliers, on puisse avoir un fonctionnement d'équipe. Ce qui est souvent, c'est pas tellement le chirurgien, vous savez, qui travaille mal ou qui opère mal, c'est une équipe hospitalière qui prend en charge, parce qu'il n'en prend pas suffisamment, de manière un peu isolée, avec du coup des parcours de soins qui sont moins performants entre l'opération chirurgicale et les soins de suite.
Donc les services qui pratiquent moins de 30 opérations de du cancer du sein peuvent aujourd'hui se sentir concernés par ce que vous dites. Deux petites questions très rapides pour finir. Nicolas Revel, le plan hôpital retardé de mai à juin et maintenant à la rentrée, Agnès Buzyn l'a annoncé hier dans Libération. Mmh. Il n'est pas prêt ?
On y travaille, je crois que...
Il n'est pas prêt, non ?
Ça n'est pas, c'est un plan sur lequel on travaille et qui, avant d'être annoncé par le président de la République, doit évidemment donner lieu à des concertations avec les acteurs. Et donc, les prochaines semaines et les prochains mois serviront à cela. Honnêtement, on n'est pas, je crois, à 2 mois près parce que ce plan, il a vocation à se traduire dans le budget 2019. Le PLFSS 2019, ce budget, il sera présenté fin septembre, début octobre.
Donc ce plan hôpital, lui...
Qui n'est pas qu'un plan hôpital,
sur le système de santé, début septembre, rendez-vous.
C'est pas moi qui fixe l'agenda du président de la République.
Vous êtes juste un peu concerné.
Mais je comprends que ce sera début septembre.
L'annonce du plan pauvreté aussi, mais ça n'est pas votre sujet. Dernière question, vous connaissez bien Emmanuel Macron. Vous étiez avec lui secrétaire général adjoint à l'Élysée entre 2012 et 2014. C'est le président des riches ou des super riches, comme disait votre ancien président ?
C'est le président de la République.
Des riches ou des super riches ?
Non, ni les uns ni les autres. Vous savez, on était ensemble, je l'accompagnais au congrès de la Mutualité Française où il a fait un discours sur la solidarité. Il a passé en revue toute une série de décisions, de revalorisation d'aide sociale, le minimum vieillesse.
La question sociale, ça le concerne ou pas ?
Absolument, je crois. En tout cas, moi, Emmanuel Macron avec lequel j'ai travaillé pendant 2 ans et demi à l'Élysée, était tout à fait comme moi intéressé par ces sujets. Évidemment.
Merci Nicolas Revel d'avoir été notre invité ce matin.
Merci à tous les deux. Entretien à retrouver sur rtl.fr.